12h, Céline Landreau et Éric Brunet.
Merci Julien Courbet et toute son équipe. Nous sommes le 1er avril, mais vous allez voir, l'information, elle, est vraiment sérieuse. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue donc dans votre rendez-vous RTL Midi. Qu'il vente ou qu'il pleuve, nous sommes là, même s'il fait beau d'ailleurs. 2h30 d'information et d'opinion, ça c'est jusqu'à 14h30. Et l'information jusqu'à 13h, c'est tout de suite. Et c'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Éric, bonjour à tous. Et à la une, évidemment, une nouvelle enquête qui démarre près de 9 mois après la disparition du petit Émile. La découverte samedi de son crâne par une promeneuse à un peu plus d'un kilomètre du lieu de la disparition relance les recherches. Le village du Vernet est à nouveau bouclé. Enquêteurs et experts fouillent la zone tandis que les ossements retrouvés sont analysés pour tenter d'expliquer le drame. On y reviendra longuement tout au long de cette édition. À suivre aussi les inondations dans le centre-ouest de la France. La décrue s'amorce pour la Vienne, mais l'Indre-et-Loire reste en vigilance rouge. Le cannabis désormais légal en Allemagne, ce qui pose beaucoup de questions à Strasbourg. Et puis un gros revers pour Recep Tayyip Erdogan en Turquie. Le parti du président islamo-conservateur a été battu lors des municipales. À midi 20, RTL Midi, votre ville a plongé dans votre quotidien. Près d'un Français sur cinq est aujourd'hui tatoué. Oui, mais voilà, certains le regrettent. Alors comment effacer cette encre qu'on ne veut plus voir? On parlera des tatouages dans une vingtaine de minutes.
C'est vrai qu'on peut se faire détatouer. C'est vrai, ça existe.
Hein. C'est vrai, et quelqu'un qui détatoue sera avec nous dans 20 minutes. Bien. Eric, vous pourrez lui poser toutes les questions à partir de 13h. C'est à vous de poser des questions, oui, peut-être à Eric. Le numéro, vous le connaissez, c'est le 3210.
Le 3210, il est d'ailleurs ouvert, le standard, dès à présent. Victor et son équipe sont en place. Vous savez que, en ce 1er avril, l'Allemagne, vous venez de le dire à l'instant, a choisi de légaliser le cannabis. Ça y est, il est légal dès aujourd'hui en Allemagne. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, qu'il faudrait la déployer en France pour les consommateurs d'une part, mais aussi pour lutter contre ce trafic dont vous vous plaignez souvent, mesdames, messieurs? 3210, on vous attend, à tout de suite, et c'est à partir de 13h.
La météo avec vous aujourd'hui, Louis Baudin, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Louis?
Ce qu'on connaît depuis des jours et des jours, c'est-à-dire ce temps très instable avec des éclaircies, des nuages, des averses, et puis toujours des températures un peu justes pour la période.
C'est un peu frisqué, c'est vrai.
Ouais.
Merci Louis, les détails à la fin du journal.
RTL Midi.
C'est une partie du mystère, mais une partie seulement, qui a été levée samedi avec la découverte par une randonneuse du crâne du petit Émile, près de 9 mois après la disparition du garçon de 2 ans et demi dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Émile est mort, c'est maintenant une certitude. Mais comment répondre à cette question? C'est tout l'enjeu de l'enquête désormais. Et pour éviter que curieux et promeneurs ne gênent les recherches, tout le village du Vernet est à nouveau bouclé, Arthur Pereira.
Absolument, et cela dès le début du chemin cabossé, escarpé, qui monte jusqu'au Haut-Vernet. Une barrière métallique bloque l'accès. Pierre-Yves Bardi, commandant du groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence, détaille le dispositif.
Il est constitué de postes fixes et d'éléments mobiles qui vont permettre en fait d'interdire l'accès de manière assez large au Haut-Vernet.
En tout, plus d'une centaine de gendarmes venus de tout le département quadrillent la zone, et cela de jour comme de nuit. Hier soir, lorsque je suis arrivé peu après minuit, j'ai vu des véhicules postés sur chacune des routes, des chemins, impossible donc d'accéder au lieu des fouilles.
Et dans le périmètre des fouilles, justement, Arthur, plus d'une centaine de gendarmes, d'experts sont à pied d'œuvre.
Oui, des équipes de l'IRCGN, des hommes et des femmes, de la brigade de recherche criminelle, de la gendarmerie d'abord, des gendarmes équipés de drones avec des capteurs thermiques survolent la zone, sans oublier
des équipes cynophiles et en particulier des chiens spécialisés dans les restes humains, la recherche de restes humains. Des anthropologues qui va en fait permettre d'exploiter au maximum les traces et indices que l'on serait susceptible de trouver. Donc c'est un travail extrêmement fin, extrêmement pointu.
Les équipes passent au tamis chaque centimètre carré de terre afin de trouver un os, une fibre de vêtement. Des épisodes de grêle, d'averse compliquent les recherches qui vont se poursuivre toute la journée et dans les prochains jours.
Arthur Pereira au Vernet pour RTL. Et on reviendra évidemment tout au long de cette édition sur ces recherches en cours, sur les questions qui restent en suspens et les réponses ou débuts de réponses que les analyses des ossements pourraient apporter. Des centaines d'évacuations face à la montée des eaux. L'Indre-et-Loire est toujours en vigilance rouge pour risque de crue. Aujourd'hui, 12 départements sont par ailleurs en vigilance orange pour le même risque. L'Indre-et-Loire où nous serons dans une dizaine de minutes.
Et puis alors qu'il est désormais légal de fumer un joint en Allemagne, eh bien de l'autre côté de la frontière, à Strasbourg, on veut lancer une expérimentation locale pour voir ce que ça donne.
Oui, les autorités allemandes autorisent depuis ce matin la consommation récréative de cannabis, mais dans un cadre strict. Il faut être résident depuis 6 mois pour pouvoir faire pousser chez soi jusqu'à 3 plants et uniquement pour son usage propre. Légalisation qui interroge évidemment chez les voisins strasbourgeois, Yannick Collan, car la règle, bien que très claire sur le papier, semble difficile à faire respecter.
Oui, c'est un peu un casse-tête, hein, puisque Strasbourg et Kehl, c'est une agglomération commune. Vous avez des Français qui vivent en Allemagne et travaillent en France, d'autres qui vivent en France et travaillent en Allemagne. Mais le cannabis ne sera autorisé que pour ceux qui habitent en Allemagne depuis plus de 6 mois. Arthur Lindon, du Centre européen des consommateurs à Kehl.
Il y a 3000 Français qui habitent à Kehl, donc eux pourront en avoir, mais ils pourront pas en donner ou en vendre. C'est strictement interdit. C'est une restriction pour éviter que, notamment, les Français qui vivent en France viennent en Allemagne pour en acheter et pour en consommer.
Alors, les patrouilles de police communes franco-allemandes vont devoir renforcer leur contrôle. Emmanuel Georges du syndicat Unité SGP Police.
Ça va leur donner énormément de travail du côté allemand, puisque eux vont devoir contrôler et faire la part des choses entre, d'une part, les résidents étrangers, mais qui résident en Allemagne depuis plus de 6 mois, donc il va falloir une attestation. De deux, des étrangers qui viennent en Allemagne en pensant on y va et on peut consommer. Donc oui, ça va leur donner une charge de travail supplémentaire.
Et si des amis de Kehl et de Strasbourg se retrouvent en Allemagne, ils ne peuvent pas fumer un joint ensemble. C'est face à cette situation que la ville de Strasbourg propose donc d'harmoniser la législation, d'expérimenter à l'échelle de la ville la dépénalisation du cannabis avec les mêmes règles que côté allemand.
Yannick Collan à Strasbourg pour RTL. Plusieurs changements à noter en ce 1er avril. La vignette verte d'abord disparaît de vos pare-brises. Désormais, les forces de l'ordre pourront accéder à un fichier dématérialisé pour vérifier que le véhicule est bien assuré. De votre côté, aucune démarche particulière à effectuer. Les frais de santé, eux, vont coûter un peu plus cher. La franchise sur les boîtes de médicaments passe de 50 centimes à 1 euro. Et puis par ailleurs, plusieurs prestations sociales sont revalorisées. RSA, prime d'activité ou encore allocation aux adultes handicapés augmente de 4,6% en raison de l'inflation.
RTL Midi.
Et puis c'est une défaite historique pour celui qui semblait jusque-là inamovible, Erdogan, le Turc Erdogan, qui a reconnu la victoire de l'opposition de centre-gauche, on pourrait dire d'un social-démocrate, aux élections municipales en Turquie.
Oui, le parti du président est battu à Istanbul, mais aussi à Ankara. Bonjour Manon Chaplin. Le parti islamo-conservateur concède donc son plus grand revers depuis plus de 20 ans.
C'est une défaite sans précédent, la plus grande de l'histoire de l'AKP, le parti présidentiel. Il y a 5 ans, lors des précédentes municipales, il avait déjà perdu Ankara à Istanbul, mais restait majoritaire au niveau national. Cette fois-ci, il passe second derrière le CHP, principal parti d'opposition qui remporte les 5 plus grosses villes du pays. Ce revers arrive moins d'un an après sa victoire aux élections présidentielles et législatives en mai dernier. Le président turc semble avoir déçu une partie de sa base électorale, lassée par des années de crise économique et une inflation sans fin. Certains de ses soutiens lui reprochent également une position trop laxiste envers Israël dans le contexte de la guerre avec le Hamas. La question désormais est celle de la succession. Le président turc a annoncé le mois dernier que les élections municipales étaient ses dernières. Il va désormais falloir trouver un candidat pour faire poids face à l'opposant Ekrem İmamoğlu, le réélu maire d'Istanbul, à la carrure désormais présidentielle.
Manon Chaplin en Turquie pour RTL. L'armée israélienne, elle s'est retirée de l'hôpital Al-Shifa après 2 semaines dans ce qui était le plus grand établissement hospitalier de la bande de Gaza. Elle dit avoir achevé ses opérations et tué plus de 200 terroristes. Ce sont les termes de l'armée israélienne qui annonce également que 600 de ses soldats ont été tués depuis le 7 octobre dernier. La météo, Louis Baudin, on vous retrouve avec un temps encore instable cet après-midi.
Oui, exactement, très instable. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on a du soleil de l'Aquitaine à la Méditerranée, un peu moins d'averses en Île-de-France ou encore dans le centre. Mais tout ça n'est que provisoire puisque malheureusement, cet après-midi...
Il va faire très beau.
Il va faire très beau.
Voilà, c'est ça. Avec 40 degrés.
C'est, non.
C'est canicule. Non, il va vraiment faire très beau.
Ça, c'est beaucoup plus au sud. Ouais. Non, il va faire très beau entre 2 averses.
Ah oui, d'accord.
Voilà, voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est encore un temps très instable. avec effectivement passages nuageux, éclaircies, on aura de très belles. Et puis sous les passages nuageux, des averses sous forme de pluie, de neige en montagne, hein, sur les Vosges, Jura, les Alpes, il neigera des 1000 ou 1200 mètres. Et puis quand même, le soleil devrait résister un petit peu mieux près de la Méditerranée avec l'aide d'un petit peu de vent. Vent qui soufflera également sur le littoral de la Manche jusqu'à 80 km/h. Les températures, toujours pas de saison, hein, pas plus de 13 à 15 degrés dans la moitié nord, alors qu'on devrait avoir facilement 15 degrés là en ce début avril. Et puis dans le sud, on n'atteindra pas les 20 degrés, 19 degrés au mieux près de la Méditerranée.
Merci Louis.
RTL Midi, un jour chez vous.
RTL Midi, un jour chez vous. Chaque jour, l'info est au plus près de vous, vous le savez. Et aujourd'hui, direction la commune de La Bouilladis. C'est dans le département des Bouches-du-Rhône.
La Bouilladis, c'est le nom du village où habitent les grands-parents et les parents d'Émile, disparus l'été dernier dans le village du Haut-Vernet. On en parlait dans le journal. Émile, dont une partie des ossements ont été retrouvés ce week-end. Bonjour, Raphaël Vantard.
Bonjour.
Vous êtes pour RTL dans ce village, à 2 heures de route donc du Haut-Vernet, où les parents d'Émile sont exprimés hier.
Ils ont choisi d'écrire, Marie et Colomban, écrire sans doute ce qu'ils ne peuvent pas dire ou décrire, leur émotion, leur immense douleur d'avoir perdu leur petit Émile, 2 ans et demi, très croyant. Les parents du petit Émile disent savoir désormais que leur enfant veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu. Si cette nouvelle déchirante était redoutée, disent-ils, l'heure est au deuil, au recueillement et à la prière. Marie et Colomban saluent également le travail des enquêteurs qu'ils espèrent finiront par découvrir les causes et de la disparition et de la mort de leur fils.
Alors à La Bouilladis, les habitants de cette petite commune, on l'imagine, partagent la peine des parents du petit Émile.
Ah, et le contraste est immense, hein, entre ce magnifique soleil printanier, ces arbres en fleurs et les visages marqués des habitants un peu partout dans ce village des Bouches-du-Rhône. Jacqueline s'effondre à notre micro, elle connaissait la famille du petit Émile.
J'ai pleuré alors, parce que moi, je connais l'arrière-grand-mère qui a mon âge. Et le père, le grand-père, je l'ai connu. Enfant, adolescent, vous voyez. Moi, je suis arrière-grand-mère depuis peu, ça me crève le cœur.
Et partout dans le village, au pied de l'église Saint-Laurent, à la boulangerie, devant la mairie, la même émotion partagée par des habitants qui sont passés de l'incertitude, l'insupportable attente, au deuil.
Qui ne peut pas être affecté par la mort d'un bébé de 2 ans et demi? Voilà, c'est tout.
Très triste, je ne le connaissais pas particulièrement. Puis voilà, hier, j'ai regardé la télé, j'ai appris. C'est horrible, quoi. Il faut surtout espérer qu'on retrouve la personne, ou peut-être que l'enfant lui-même est tombé, on n'en sait rien. Il ne faudrait pas avoir de cœur pour ne pas réagir quand même, non ?
José Morales, le maire de la ville, est en contact avec la famille d'Émile, une famille réunie dans le chagrin ici à La Bouilladis.
C'est beaucoup d'émotions et de tristesse. Voilà, Émile a disparu depuis le mois de juillet. Et, dans cette attente-là, il y a toujours de l'espoir. Voilà, aujourd'hui, non, il n'y a pas de soulagement. Là, on apprend le décès d'Émile, on l'acte. Voilà, et donc, c'est beaucoup d'émotions chez tous nos habitants. D'accord. C'est une famille très connue. Le grand-père qui naît sur le village. L'arrière-grand-mère était institutrice. Oui, c'est des gens très connus. Oui.
La mairie et la paroisse de la ville vont organiser dans les heures qui viennent un grand recueillement. Tout le monde ici veut accompagner la famille d'Émile dans cette incommensurable tristesse.
Raphaël Vantard dans les Bouches-du-Rhône, donc pour RTL. On marque une pause dans cette édition et dans un instant, direction l'Indre-et-Loire. L'Indre-et-Loire, victime d'inondations, la Vienne est sortie de son lit, peut-être la crue Sentinelle, on sera sur place dans un instant.
Céline Landreau, Éric Brunet. RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Éric Brunet. RTL Midi.
On va en Touraine. Le département de l'Indre-et-Loire est toujours en alerte rouge aux crues. La Vienne est sortie de son lit. Montée des eaux impressionnantes. Des centaines de personnes ont dû être évacuées. Mais la décrue commence enfin. Bonjour Margot Munoz.
Bonjour.
Envoyé spécial de RTL en Indre-et-Loire. Vous avez sillonné le département, Margot, le long de la Vienne. Et vous avez donc pu constater les dégâts.
En début de matinée, j'étais à Chinon. Au réveil, certains habitants avaient les pieds dans l'eau au rez-de-chaussée de leur maison. J'ai ensuite pris le volant direction Nouâtre, une commune à une trentaine de minutes, sauf qu'il m'a fallu le double pour arriver à destination, car la route indiquée par mon GPS était complètement fermée à cause des inondations dans les villages alentours, comme l'île Bouchard ou Parçay-sur-Vienne. Une fois qu'un cycliste m'a aidé à retrouver mon chemin, je suis arrivée à Nouâtre. Hier, sur la place de la mairie, l'eau m'arrivait aux genoux. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, mais certains ont tout perdu ou presque, comme Claire qui est commerçante sur la place principale. Elle m'accueille une serpillière à la main.
Eh bien, là, on essaye de nettoyer un maximum. Là, je répertorie ce qui est foutu. Et on vide au fur et à mesure qu'on a répertorié de façon à liquider pour pouvoir enlever l'eau parce qu'il y a plein d'eau encore dans la réserve.
Quand vous avez poussé la porte du magasin, ça a été quoi la vision ?
Bah, c'était un peu horrible parce que ça flotte de partout, il y a de la boue, vous avez des tas de choses qui tombent, il y a l'électricité qui ne fonctionnait plus. Mais bon, il faut se dire, on va y arriver.
Mais Claire n'est pas seule. À l'entrée de son magasin, une vingtaine d'habitants sont venus lui prêter main forte pour vider la réserve et sauver ce qui peut l'être.
Merci beaucoup Margot. Margot, vous êtes donc à Noitre, hein, on l'entendait, et à vos côtés, le maire de cette commune de quelques 800 habitants. Bonjour Laurent Augras.
Bonjour.
Une telle crue à Noitre, c'est du jamais vu pour vous ?
Pour moi, oui. Pour quelques habitants, ils ont pu connaître déjà des crues. De cette ampleur, non. Ça fait déjà plusieurs dizaines d'années où il n'y a pas eu une crue de plus de 9 mètres. C'est assez exceptionnel. C'est une crue centennale, en fait, qui nous est arrivée.
9 mètres, dites-vous. Est-ce que vous commencez déjà à avoir une cartographie des dégâts ? Qu'est-ce qui est touché ? C'est des dizaines de maisons on a du mal, nous, à nous représenter l'échelle des dégâts.
Oui, nous aussi, là, c'est plutôt l'heure et plutôt au bilan. On a tout le centre-bourg qui a été inondé, et notamment les commerces qui ont été les plus touchés, notamment l'épicerie, la boulangerie, le magasin. Donc, il n'y avait pas d'eau dans le magasin, mais tout leur labo est inondé, des caves, des logements, notamment des logements locatifs. On a dû évacuer des personnes, en fait, leur trouver un logement provisoire ou eux-mêmes ont trouvé une solution pour la nuit. Et sur Noyer aussi, donc un mot à 2 kilomètres de Noitre, là ils ont été aussi beaucoup atteints, donc une maison où ils avaient plus d'un mètre d'eau. Et là pour ces gens-là, l'armée nous a proposé, ils ont 4 appartements disponibles et on va pouvoir les reloger, donc une famille avec 2 enfants.
Donc l'armée vous a...
Tous s'organisent plus ou moins.
Il n'y a pas de victimes à déplorer dans votre commune ni dans le département, d'ailleurs, selon nos informations. On rappelle quand même qu'un kayakiste est porté disparu dans un département voisin, la Haute-Vienne.
Oui, moi, je n'ai pas connaissance de disparus.
J'entends bien, mais chez vous, vous confirmez bien que chez vous, il n'y a pas de victimes ?
Non, pas à ma connaissance. Heureusement.
Bien sûr, on ne peut que s'en féliciter. Une fois le constat posé, les dégradations matérielles que vous évoquiez, est-ce que vous êtes déjà dans l'après, dans l'anticipation de futurs phénomènes semblables ? Est-ce qu'ils peuvent être mieux prévenus ? Est-ce que vous réfléchissez déjà à des aménagements pour éviter que ça se reproduise ?
C'est difficile là, de penser à tous ces aménagements. C'est plutôt s'organiser pendant ces événements, se préparer... voilà, d'autres crues peut-être à venir, on n'en sait rien en fait. Là c'est une crue centennale, c'est assez exceptionnel, mais on a déjà eu des crues à 6 ou 7 mètres, là on était plutôt à 9 mètres, à plus de 9 mètres, donc bon, il y a quand même toute une partie du village qui est protégée, mais qui est protégée voilà, pas au-delà de 8 mètres, 8 mètres 50, là on peut pas empêcher la Vienne d'aller si loin. Et bon voilà, et elle peut monter très vite comme aussi elle peut monter très lentement comme lors de la crue de 1982 où elle est montée beaucoup plus lentement, elle a pas forcément inondé les mêmes zones. Et là c'était plutôt plus brutal quoi, elle est montée en une nuit.
C'est ça, c'était difficile d'anticiper tout ça. Merci beaucoup.
9 mètres, vous imaginez. Merci à vous, Laurent Augras, donc maire de la commune de Noitre, c'est bien cela. Dans un instant, il faut que je vous rappelle que ce sera les auditeurs ont la parole à 13h. Deux sujets, je vous ai déjà parlé de l'Allemagne qui a légalisé le cannabis. Est-ce que vous voulez que ce soit la même chose en France ? On en parle à 13h. Et puis vers 13h30, on va parler de cette histoire. Je sais que ça va vous agacer. Hein. Bercy, le ministère des Finances, traque les abris de jardin. Voilà, à partir de 5 5 mètres carrés, il faut le déclarer aux impôts et vous payez des taxes. Qu'en pensez-vous? Le saviez-vous? Allez-vous déclarer votre abri de jardin? L'avez-vous déjà déclaré? Je vous préviens tout de suite, il y a des drones. Il y aura des drones, on les verra. Voilà, et ça se déclare comme une piscine. Ce sera le deuxième thème que nous évoquerons. 32-10, le standard est déjà ouvert.
Dans un instant, le détatouage. Près d'un Français sur 5 est tatoué. Oui, mais parfois, ce dessin, on aimerait bien pouvoir l'effacer. Eh bien, sachez que c'est possible, on vous explique tout dans un instant.
RTL Midi, Céline Landreau et Éric Brunet. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Mais qu'est-ce que tu fais là? Hein, mais je... C'est tatoué là?
Ouais.
Mais tu rigoles ou quoi? Tu peux pas m'enlever?
Ben non, c'est tatoué.
Terminé l'époque où il était l'apanage des marins et des bagnards, alors qu'aujourd'hui près d'un Français sur cinq est tatoué, il arrive parfois que certains aient des regrets et décident de faire retirer leur tatouage. Bonjour Jean-Marie Fèvre.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien esthétique. D'abord, comment retire-t-on un tatouage ?
Actuellement, on retire un tatouage avec un laser, mais un laser spécifique pour retirer le tatouage. Moi, quand j'ai commencé mes études, ça remonte à un certain temps, mais les lasers existaient déjà, mais on utilisait des lasers qui brûlaient la peau. Et en fait, ça laissait des traces importantes. Là, ce sont des lasers qui agissent électivement sur le pigment et le fragmentent.
Donc, c'est la seule technique aujourd'hui pour enlever un tatouage et c'est fait uniquement par des médecins?
Alors, c'est la seule technique? Non, c'est fait uniquement par des médecins officiellement, officieusement. Vous savez, vous achetez tout ce que vous voulez sur Internet et donc vous pouvez acheter probablement des lasers de détatouage, pas de la même qualité, mais tout le monde peut s'y adonner, à mon avis, probablement.
Ça marche de la même façon à chaque fois, sur toutes les peaux d'ailleurs, parce qu'il y a des peaux très différentes. Hein.
Bien sûr, la difficulté, c'est de faire comprendre aux patients ou aux patientes qu'il faut y aller progressivement, qu'il faut pas brûler, pas dépigmenter. Les peaux noires sont plus compliquées que les peaux blanches parce qu'elles se dépigmentent. Et la couleur agit beaucoup aussi. Si vous agissez sur une couleur noire, c'est facile. S'il y a un mélange de couleurs, c'est plus compliqué.
Vous vous souvenez du sketch de Légende de François Damiens chez le
tatoueur? Dont on a entendu l'extrait au début de cette séquence.
C'était bien ça, j'étais pas sûr. Oui, il se fait tatouer un élan ridicule. C'est comme un dessin d'un enfant de 3 ans. Et c'est terrible. Alors le client se dit, mais c'est pas possible. Bon, bien évidemment, c'est un faux tatouage. Mais tous ces tatouages ratés aussi, tous ces tatouages à Pauline pour la vie. Et puis Pauline, on la quitte 15 jours après. C'est ça.
Premier motif des tatouages, c'est des déceptions amoureuses.
Moi, je dirais qu'il y a deux catégories de tatoués. Il y a les tatoués qui prennent leur corps comme une toile, comme une œuvre d'art, et qui veulent... Il y a un sentiment de liberté dans tout ça, paradoxalement. Ils veulent faire ce qu'ils veulent, parce que ça leur plaît, ça leur convient. Et parfois, ils viennent pour changer une petite partie du tatouage. Chose qui est honnêtement complètement incompréhensible, parce que c'est changer une petite partie pour une autre partie. Comme vous refaites le fond d'un tableau, vous pouvez modifier votre tatouage. Puis après, il y a les tatouages compulsifs, soit d'un soir de beuverie, soit d'un amour déçu. Mmh. Et cela, effectivement, c'est oublier une trace.
Alors, il faut combien... Est-ce que c'est une intervention lourde, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez anodin, c'est comme une coupe de cheveux, enfin, ou c'est un truc qui dure longtemps, qui fait mal, qui brûle, sur lequel il faut appliquer des crèmes pendant des semaines.
Alors vous m'assimilez à un coiffeur, c'est souvent le cas avec les chirurgiens esthétiques, mais bon, c'est pratiquement ça, c'est très simple.
C'est très simple,
il y a une technologie autour, il faut savoir utiliser des lasers, mais c'est quelque chose qui se fait en consultation, qui est plus ou moins douloureux en fonction de la grosseur du tatouage, de son étendue, mais maintenant on a des crèmes qu'on applique avant. C'est surtout, il faut répéter les séances, il faut bien comprendre qu'en une séance, vous ne pouvez pas tout faire, que ces séances doivent être espacées et que souvent, au décours de la première séance, les patients sont ravis, mais le tatouage ressort de la profondeur comme ça, l'encre sort d'une éponge.
Et les gens qui abusent de ça, ce n'est pas dangereux pour la peau?
Moi, je pense que les tatouages sont un peu... Alors, pour la peau, non, parce que en fait, la peau récupère, mais le tatouage en soi, les gens qui sont multi-tatoués, l'encre migre. On retrouve de l'encre dans le cerveau, dans le foie, dans le rein. Il y a une migration du pigment.
Alors, vous dites qu'il faut plusieurs séances pour effacer définitivement le tatouage. Plusieurs séances, ça veut dire un coût peut-être plus important. Combien ça coûte de se faire détatouer?
Mais ça coûte cher. Probablement, c'est ça qui est le plus difficile à expliquer. Moi, j'ai cette spécificité d'être chirurgien plasticien. Je fais pas que ça. Donc, je vais expliquer aux gens qu'ils le fassent, qu'ils le fassent pas. J'ai quand même du boulot. Je suis pas une officine branchée sur la rue. Je leur dis, je suis incapable de vous dire à la première séance. Et ce que je vais vous dire, je pourrais vous l'affiner à la deuxième séance quand je verrai un mois après le résultat. Mais pour un petit tatouage, ça peut prendre 8 à 10 séances.
Donc combien ?
Bah, ça dépend de la superficie et du temps passé. Les machines coûtent très cher.
Est-ce qu'on peut avoir une estimation, une fourchette, un petit
tatouage qui fait 5 cm carrés, à peu près 5 sur 5, il faut compter dans les 180 à 200 euros par séance. Donc c'est sûr que c'est cher.
Par séance, et il peut en falloir 4-5.
Il peut y en avoir surtout 8-10.
D'accord, donc on peut être à 2000 euros pour effacer un petit tatouage de 5 sur...
qui vous a coûté 150 euros.
D'accord.
Exactement.
Merci beaucoup.
C'était passionnant. Comme quoi, mesdames, messieurs, lorsqu'on va se faire tatouer, on réfléchit, on pense loin, on pense long terme. Merci beaucoup d'avoir passé, Jean-Marie Fèvre, ces quelques instants avec nous. Je rappelle que vous êtes chirurgien plasticien, chirurgien esthétique. Merci d'être venu nous voir. Dans un instant, l'info revient. Ce sera le journal de midi et demi.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, bonjour si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi. Vous devez savoir qu'il est très exactement midi et demi.
RTL Midi, le 12-30, Céline Landreau, Julia Van Elst.
Et à 12h30 donc, effectivement, votre grande édition de la mi-journée avec vous, Julia Van Elst, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour Eric, bonjour à tous.
À la une ce midi, de nouvelles fouilles pour tenter de retrouver le reste de la dépouille du petit Émile.
Oui, une centaine de gendarmes doivent ratisser le secteur avec des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains. Vive émotion dans le village du Haut-Vernay. On sera en direct au début de ce journal.
Et après ce journal, on s'interrogera aussi sur le travail des experts qui accompagnent les gendarmes sur place. On s'interrogera aussi sur ce que les analyses du crâne du petit garçon peuvent révéler. Rendez-vous dans une dizaine de minutes.
Dans le reste de l'actualité, l'Indre-et-Loire toujours en vigilance rouge pour risque de crue. 12 autres départements sont eux en vigilance orange. Le 1er avril et la vignette verte sur les pare-brises n'est plus obligatoire. On vous expliquera tout ça. À l'international, dans la bande de Gaza, l'armée israélienne se retire de l'hôpital Al-Shifa après 2 semaines de siège. Et le sport, après OM-PSG hier, Kylian Mbappé fait la une des journaux ce matin, mais pas pour ses exploits sportifs.
Juste avant 13h, LVT midi, on va parler d'un documentaire aujourd'hui, un documentaire co-signé Mathieu Kassovitz consacré au cannabis. Il a écumé la planète pour voir notamment ce que ça donne dans les pays où il a été légalisé. À 13h, ce sera peut-être justement un des sujets que vous aborderez avec les auditeurs, Eric, la légalisation du cannabis.
Oui. Parce que de ce 1er avril, et ça n'est pas un 1er avril, l'Allemagne a légalisé le cannabis, donc beaucoup se grattent la tête en France et se disent, si on faisait la même chose en France, qu'en pensez-vous? Et puis on parlera aussi de Bercy qui traque les abris de jardin. Il faut les déclarer à l'administration fiscale, comme une piscine par exemple. Le saviez-vous? Allez-vous le faire. Vous nous appelez au 3210, le standard est ouvert.
Et la météo, la fin de ce journal, Louis Baudin, il faut s'attendre à quoi?
Encore des averses, encore du vent et encore de la neige en montagne, tout ça avec des températures un peu fraîches pour la période.
Merci Louis.
Jusqu'à 13h, RTL Midi.
Alors que des ossements du petit Émile ont été découverts samedi, les recherches se poursuivent aujourd'hui.
Oui, une centaine de gendarmes et de chiens cynophiles à pied d'œuvre dans le hameau du Haut-Vernay. Ils ratissent la zone où une randonneuse a découvert le crâne du petit garçon hier. Beaucoup de questions restent sans réponse. Quelles sont les causes de la mort du petit Émile? Ces ossements ont-ils été déplacés? Étienne Baudu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du Haut-Vernay, dans le village. Les habitants espèrent que l'enquête progresse. Beaucoup d'émotions ce matin.
Oui, alors écoutez, ce matin, c'est tout un village qui est encore groggy par cette terrible découverte. Hélène, par exemple, elle l'avoue, elle dort très mal depuis presque 9 mois. Elle fait des cauchemars. Hélène qui s'est effondrée hier.
Je me suis mise à pleurer parce que ça reste un petit garçon, parce que ces photos ont été vues partout dans la presse. Donc oui, c'est un choc, c'est la mort d'un enfant. Et puis ensuite, ma première réaction, ça a été de me dire « Mais pourquoi ne l'a-t-on pas retrouvé plus tôt alors qu'il était très proche de son logement ?»
Une autre question revient sur toutes les lèvres. Comment les fouilles effectuées à plusieurs reprises sur la zone de recherche actuelle, comment n'ont-elles pas permis de détecter le corps? Hélène avance des hypothèses proches d'ailleurs de celles des enquêteurs.
On peut imaginer qu'avec la fonte des neiges, avec les pluies, avec les animaux qui peuvent bouger le corps d'un enfant, en dévorer une partie, le vent, j'en sais rien. Un corps peut bouger, donc il est possible qu'on n'ait pas retrouvé le corps lors des battues, lors des recherches, et qu'il soit là après parce que la nature l'a fait bouger le corps.
Alors bien entendu, les habitants n'écartent pas non plus la piste criminelle et chacun y va de son hypothèse, mais au-delà de tout ça, il ne faut pas oublier les parents.
Je pense qu'il n'y a rien de pire pour des parents de ne pas savoir ce qu'est devenu leur enfant, et là, ils savent, donc c'est terrible, mais au moins ils savent.
Hélène qui le précise, elle veut connaître la vérité sur les causes du décès du petit Émile, ne serait-ce que pour être plus sereine lorsque ses enfants iront jouer dehors.
Merci beaucoup Étienne Baudu, en direct du Haut-Vernay pour RTL.
Vous l'entendiez, plusieurs hypothèses effectivement toujours sur la table à propos de cette disparition du petit garçon décédé, c'est une certitude maintenant, mais est-ce le résultat d'une chute, d'un accident, d'un acte criminel? Des analyses sont en cours, plusieurs experts sont envoyés sur place pour fouiller la zone et on y reviendra en détail juste après le journal.
RTL Midi.
L'Indre-et-Loire, toujours en vigilance rouge aujourd'hui pour risque de crue.
Hier soir, les eaux de la Vienne sont montées jusqu'à un peu plus de 5 mètres dans le secteur de Chinon, où des centaines d'habitants ont été évacués de façon préventive. Charline, 34 ans, est venue aider des amis à Noâtre, une commune qui a été inondée. Écoutez.
À la base, ça ressemble à quoi? Il n'y a pas d'eau ici, mais hier, il y avait l'eau jusque où on est. En fait, on aurait eu l'eau jusqu'aux mi-cuisses. Et là, ce matin, vous pouvez voir, elle est déjà redescendue sur la berge. Elle est arrivée très vite et elle est repartie aussi sec. Pour mes voisins, mes amis, ouais, c'est rassurant pour eux, parce qu'ils vont pouvoir retourner chez eux. Mais en fait, on se dit que si ça commence déjà comme ça, cette année, souvent, il y a beaucoup de pluie là dans les 2 mois qui arrivent et on a un petit peu peur que ça recommence très rapidement, quoi.
Une propos recueillie par Margot Munoz à Noâtre pour RTL. Et dans 3 départements, la Haute-Vienne, la Vienne et l'Indre-et-Loire, le gouvernement a lancé hier soir une procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Par ailleurs, 12 autres départements sont en vigilance orange crue, dont la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde ou encore le Vaucluse. Vigilance orange au moins jusqu'à mardi.
Demain donc, nous sommes le 1er avril, Julia, et il va y avoir des changements.
Des changements pour les automobilistes notamment. Plus besoin de mettre la petite vignette verte sur le pare-brise de la voiture ou de la moto. Mais attention, Christophe Bourou, les véhicules doivent toujours être assurés.
Oui, attention, sans assurance, cela vous expose à des sanctions sévères, allant d'une amende de 3750 euros jusqu'au retrait de permis et jusqu'à une peine de prison. À cela s'ajoute ce que vous aurez à payer en cas d'accident, selon Anne Laveau, déléguée générale de la prévention routière.
Si vous êtes très responsable d'un accident avec une victime et une indemnisation qui est élevée à ce niveau-là, vous devrez toute votre vie rembourser le fonds de garantie. On a aujourd'hui des personnes qui se retrouvent avec des mensualités de l'ordre de 500, 1000 euros à rembourser au fonds de garantie.
Et justement, le nouveau système mis en place aujourd'hui permettra aux policiers et gendarmes de vérifier à partir de la plaque d'immatriculation de votre véhicule que vous êtes bien assuré. On estime que 800 000 personnes roulent sans assurance en France.
Et Christophe Bourou, spécialiste automobile RTL. Le 1er avril, c'est aussi les prestations sociales qui vont augmenter de 4,6% pour suivre l'inflation. Ça concerne le RSA, la prime d'activité, la prime des allocations, les allocations familiales et l'allocation adulte handicapé. Et puis, c'est la fin de la trêve hivernale aujourd'hui. Les expulsions sont à nouveau autorisées en cas de loyer impayé.
RTL Midi.
L'actualité à l'étranger est maintenant. Dans la bande de Gaza, l'armée israélienne annonce s'être retirée de l'hôpital Al-Shifa.
Oui, après y avoir siégé pendant 2 semaines, l'objectif était de débusquer des combattants du Hamas accusés de se cacher dans les hôpitaux. Émilie Beaujard, bonjour.
Bonjour.
Alors, selon les Israéliens, je cite, 200 terroristes ont été éliminés dans le secteur, mais ils laissent derrière eux un paysage de désolation.
Oui, un cratère à la place de l'entrée de l'hôpital, des bâtiments entièrement détruits, incendiés, un quartier en ruine. Il ne reste presque rien de l'hôpital Shifa, le plus grand complexe médical de la bande de Gaza. Ce matin, les habitants évacuaient les derniers patients qui étaient retranchés dans le sous-sol, une centaine de personnes. L'OMS annonce de son côté que 21 patients sont morts pendant le siège. Le Hamas lui assure que des dizaines de corps sont en train d'être retrouvés dans et autour de l'hôpital. Les habitants encore présents filmaient ce matin les dégâts et tentaient de récupérer ce qu'ils pouvaient dans les décombres. L'armée israélienne annonce ce midi avoir fini ses opérations à l'hôpital Shifa, où elle dit avoir tué 200 terroristes du Hamas et arrêté plus de 900 personnes.
Merci Émilie. Par ailleurs, une réunion entre des responsables israéliens et américains est prévue en visioconférence ce lundi. Objet de l'échange, l'offensive prévue par Israël à Rafah au sud de la bande de Gaza et qui continue de susciter beaucoup d'inquiétudes au sein de la communauté internationale. Le sport et le foot maintenant, la fin de la 27e journée de Ligue 1 hier soir. Le PSG s'est imposé 2-0 face à l'OM. Succès héroïque et collectif des Parisiens à 10 contre 11 face à Marseille. Bonjour Baptiste Durieux.
Bonjour.
Alors on a vu un Kylian Mbappé transparent pendant le match hier et pourtant il y a la une des journaux ce matin.
Oui, transparent sur le terrain, un match insignifiant, une performance insipide sortie par son entraîneur Luis Enrique à la 64e minute de jeu et puis une caméra le filme en gros plan et certains internautes lisent sur les lèvres et décrètent qu'Mbappé insulte son coach. La question a même été posée à Luis Enrique hier.
Yo no visto nada, de nada.
Voilà, je n'ai rien vu, dit-il, rien du tout. Mbappé ne s'assoit pas sur le banc, mais rentre directement au vestiaire à la douche. Une soirée conclue par cette photo publiée par le meilleur buteur du PSG sur Instagram. On le voit de dos, brassard de capitaine dans la main, quittant la pelouse, tête baissée, comme pour montrer ostensiblement sa frustration. Le défenseur du PSG, Milan Skriniar.
Je n'ai pas vu cette séquence, mais je l'ai vu dans le vestiaire après le match. Il avait le sourire et il était heureux.
Et ça, le Français était joyeux, démonstratif, notamment cette nuit devant les supporters venus accueillir les Parisiens à l'aéroport. Mais laisse une image très contrastée pour son dernier classique face à Marseille, alors qu'il quittera le PSG à la fin de saison.
Merci beaucoup Baptiste. Et le débrief intégral de ce Marseille-PSG est à retrouver en podcast dans On refait le match, la quotidienne. C'est sur RTL.fr et toutes les plateformes. Et pour continuer avec le sport, le tennis, le jeune Italien de 22 ans, Yannick Sinner, a gagné le tournoi de Miami en battant Dimitrov 6-3-6-1. Et enfin, une bonne nouvelle, à moins de 4 mois des Jeux Olympiques, Teddy Riner a remporté hier le grand chelem d'Atalaya en Turquie. Le champion français n'a plus perdu depuis le quart de finale des JO de Tokyo. C'était en 2021.
Merci beaucoup, Julia Van Els. La météo, Louis Baudin, ça reste très, très agité encore cet après-midi.
Oui, ça reste, ça continue effectivement à être très instable hein, sur toute la France. Après une accalmie parfois durant la matinée, bah, cet après-midi, ça va repartir de plus belle dans toutes les régions à un moment ou à un autre. Donc, nous aurons des passages nuageux, des éclaircies, sous les passages nuageux, des averses, parfois accompagnées d'orages. Et ça se transformera en neige à partir de 1000 ou 1200 mètres sur les Vosges, Jura ou encore les Alpes. Les régions du Sud seront également concernées, sauf le littoral méditerranéen où ça devrait rester un petit peu plus dégagé. Le vent sera également de la partie, jusqu'à 80 km/h sur les côtes de la Manche et parfois 100 km/h aux extrémités de la Corse où là il y aura un petit risque d'averse. Puis les températures, toujours pas de saison, 13 à 15 degrés, pas plus dans la moitié nord cet après-midi, 15 à 18 dans le sud, on ira quand même jusqu'à 19 degrés du côté de Bastia.
Merci Louis. Dans un peu moins de 20 minutes maintenant, c'est vous qui prenez la parole, chers auditeurs.
Oui, vous prenez la parole, vous pourrez parler du cannabis légalisé en Allemagne, vous pouvez parler également des abris de piscine qu'il faut déclarer. On me dit au standard qu'il y a des appel pour petit Émile. Donc vous faites ce que vous voulez les amis, nous vous attendons au 3210, le standard est ouvert.
Justement, vous parliez d'Émile dans un instant, on revient sur cette nouvelle enquête qui démarre après la découverte samedi par une promeneuse du crâne de l'enfant. De nombreux experts sont mobilisés maintenant pour faire parler ses os, faire parler aussi le lieu de sa disparition. On y revient dans un instant.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes.
RTL Midi. Avec Éric Brunet et Céline Landreau.
C'est une nouvelle enquête qui démarre après la découverte ce samedi d'ossements appartenant au petit Émile. Le crâne de ce petit garçon disparu le 8 juillet dernier dans le hameau du Haut-Vernay a été retrouvé par une promeneuse à un peu plus d'un kilomètre de la maison de ses grands-parents. Bonjour Maxime Lévy.
Bonjour.
Journaliste police-justice à RTL.
Et bonjour à Jacques Dallest qui est avec nous également. Vous êtes ancien juge d'instruction et procureur de la République et procureur général. Bonjour Jacques Dallest.
Bonjour.
Maxime, d'abord, on commence avec vous. Vous qui suivez pour RTL cette affaire depuis le début, on le disait, c'est évidemment un tournant dans l'enquête, car si on a la certitude, désormais qu'Émile est mort, on ignore encore comment.
Oui, c'est la deuxième partie en fait du mystère auquel les gendarmes sont confrontés. De quoi est décédé le petit garçon, ce crâne qui a été retrouvé. Les enquêteurs ont pu le faire correspondre avec l'ADN d'Émile, mais ce n'est pas tout. Les gendarmes vont essayer de voir s'il y a, par exemple, des fractures, même microscopiques, compatibles avec un coup ou une chute. Également, s'il porte des traces de griffures ou de morsures qui pourraient indiquer qu'il a été déplacé par un animal.
Une autre expertise est cruciale, Maxime, c'est celle du biotope.
Oui, c'est-à-dire celle de l'environnement naturel où ont été retrouvés les ossements du petit Émile, voir par exemple s'il y a de la terre sur ce crâne et si cette terre correspond à celle de la scène de découverte. Si c'est non, cela pourrait vouloir dire qu'il a été déplacé. Donc ça, ce sont pour les analyses qui sont en ce moment réalisées à Pontoise, dans les laboratoires de la gendarmerie scientifique. Sur place, au Auvernais, plus d'une centaine de gendarmes gèlent le périmètre de la découverte et recherchent les ossements restants, notamment grâce à des chiens spécialisés pour pister les restes humains.
Merci Maxime Lévy.
Jacques Dallest qui est avec nous. L'urgence, quelle est l'urgence désormais? Trouver, j'imagine, le plus vite possible le reste de la dépouille du petit Émile, les vêtements également de l'enfant?
Bien sûr. Évidemment, on doit ça à la famille, retrouver l'intégralité, si possible, du corps. Pour la famille, évidemment, mais aussi pour l'enquête judiciaire, puisque seule la découverte des ossements complets pourra aider à la manifestation de la vérité, notamment des os longs, pour pouvoir les examiner, savoir s'il y a eu des fractures, une agression extérieure. Enfin, tout ça, c'est un travail, évidemment, de longue haleine. Il faut découvrir ces ossements, mais il faudra ensuite les expertiser de façon très détaillée.
Parce que pour l'instant, aucune des hypothèses, l'enfant qui se serait perdu, un accident ou un crime, aucune de ces hypothèses ne peut être écartée.
Tout à fait. Il y a deux questions qui se posent fondamentalement. C'est que le petit Émile est-il décédé à l'endroit où on a découvert son crâne? Et la deuxième question, quelles sont les causes de son décès? Et actuellement, on n'a aucun élément qui permet de pencher pour une thèse, la thèse de l'accident de l'enfant qui s'égare dans la montagne et qui en meurt, ou la thèse d'une intervention extérieure, d'un rapt, et que l'enfant aurait été jeté ou on l'aurait déposé dans la montagne. Donc pour l'instant, on en est à ce stade-là, et il faudra que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que ça peut prendre un peu de temps, on puisse avoir plus d'informations sur ce qui a pu se passer et les mécanismes qui ont causé le décès du petit Émile.
Jacques Dallest, est-ce qu'il faut s'interroger sur le timing de la découverte? C'est quand même une sacrée coïncidence que ça ait eu lieu 2 jours après la mise en situation.
Oui, alors ça peut être une pure coïncidence, bien sûr. Il faudra savoir ce que dit la promeneuse, je crois, ou la joggeuse qui a découvert le crâne de l'enfant. Est-ce que c'est suite à la médiatisation de cet acte que des personnes se sont rendues sur les lieux? Ou est-ce qu'il y a une autre explication? Ce qui est important, justement, c'est de savoir si les ossements, ce qu'on a retrouvé à ce jour, correspond à un corps qui était là depuis très longtemps, plusieurs mois, ou s'il a pu être déplacé. Et comme cela a été dit, seul l'examen précis de ces restes permettra de déterminer s'il y a eu un déplacement, une manipulation ou pas.
Eric s'interrogeait sur le timing. On peut peut-être se poser des questions aussi sur le travail de fouille qui avait été mené jusque-là, parce que cet endroit, il avait été fouillé. Pourquoi on n'avait pas retrouvé...
Fouillé, refouillé, disent les...
Cette dépouille avant.
Ouais.
Oui, alors, vous savez, même des fouilles, des recherches très approfondies avec drones peuvent passer à côté d'un corps. Pour avoir exercé dans des ressorts de montagne, et j'habite d'ailleurs dans un ressort de montagne, je sais que il n'est pas toujours simple de retrouver le corps d'un randonneur qui s'est tué en montagne. On peut passer à côté. Pensons à l'affaire du petit Lucas Tronche, qu'on a retrouvé 5-6 ans plus tard, pas très loin de chez lui, sur une paroi. En fait, il avait vraisemblablement fait une chute. Donc, il faut admettre qu'on peut passer à côté d'un corps, même si des recherches attentives ont été organisées. Imaginons que le petit Émile soit tombé dans un trou, le corps se soit recroquevillé de la terre, des pierres, et on peut très facilement passer à côté. Voilà, et c'est peut-être une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que le corps ait été déplacé, posé là, après le déclenchement de toutes ces battues. C'est aussi une solution à envisager, bien sûr.
À ne pas écarter pour l'instant. Merci beaucoup Jacques Dallest, ancien juge d'instruction, rappel procureur de la République et procureur général. Je vous signale aussi cette émission spéciale de l'heure du crime. Tout à l'heure à 14h30, Jean-Alphonse Richard reviendra sur ces nouveaux éléments et sur toute cette affaire de la disparition du petit garçon, on le rappelle, le 8 juillet dernier dans le hameau du Auvernais.
Et puis dans un instant, votre rendez-vous culture LVT Midi, le comédien Mathieu Kassovitz co-signe un documentaire sur le cannabis et son usage à travers le monde. Et Isabelle Morini-Bosque, qui vient d'entrer dans ce studio, l'a vu et elle vous en parle. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Éric Brunet, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi, ça vous le savez. Et aujourd'hui, ça vous ne le savez pas forcément, alors que le cannabis est au cœur de l'actualité avec sa légalisation en Allemagne, ça n'est pas un 1er avril, eh bien aujourd'hui, le cannabis est aussi au cœur d'un documentaire diffusé demain sur France 5.
Un documentaire signé Antoine Robin et Mathieu Kassovitz que vous avez vu pour nous, Isabelle Morini-Bosque, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est une enquête au long cours, un tour du monde du cannabis, si l'on peut dire, notamment dans les pays où il a été légalisé.
Absolument. Et les deux ont rencontré dealers, dockers, docteurs, consommateurs, policiers et entre autres le Premier ministre Justin Trudeau qui affirme que 5 ans après la légalisation du cannabis au Canada, il a moins de dealers et pas plus de consommateurs. Le doc est diffusé donc, vous l'avez dit, demain sur la 5 et en 10 fois 20 minutes sur France.télévision. Échantillon.
C'est un sujet hautement inflammable.
Le cannabis, plante psychotrope qui en France met à feu à sang des quartiers entiers.
La lutte contre la consommation de cannabis, ça nous coûte 1 milliard d'euros par an, alors que ça pourrait nous rapporter près de 3 milliards.
Le cannabis est une drogue dont les Français sont les plus gros consommateurs en Europe. 6 millions dont un tiers de moins de 25 ans. Et certains deviennent accros.
Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup détruit au niveau de ma scolarité, au niveau de ma santé mentale.
La France a décidé de punir sévèrement les trafiquants et les consommateurs. D'autres pays dans le monde ont fait un autre choix, légaliser.
Notre rôle, c'est de vendre du cannabis pour protéger la santé.
Mais légaliser, est-ce la bonne solution?
Certaines images sont sidérantes, comme la queue à un point de deal de cannabis. Il y a autant de monde qu'à Euro Disney. Et si Mathieu Kassovitz a choisi ce thème pour son premier reportage télé, c'est parce que le cannabis est pour lui une belle plante à part.
La plante me passionne. Je l'ai connue en tant que consommateur, mais est absolument incroyable. On s'en sert d'une manière thérapeutique. Ça ouvre un nouveau champ au niveau de la pharmacopée. Alors, au-delà de la société, il y a quelque chose de très philosophique derrière. Le cannabis, c'est une drogue pacifique de Bob Marley. Donc c'est pas la même chose que une drogue de boîte de nuit. Les gens qui sont dans le cannabis, beaucoup sont des amoureux de la nature. Le cannabis est une plante qu'on fait pousser avec du soleil, avec de l'eau, de la terre. C'est très basique. Il y a un véritable culte, mais aussi les choses évidemment qui sont un vrai problème, c'est la consommation chez les jeunes. Brûler le cannabis et s'en mettre dans les poumons, c'est la perte de contrôle. Il y a beaucoup de jeunes qui s'en servent pour échapper à la réalité. Les jeunes doivent pouvoir avoir des réponses à des questions qu'ils n'ont parfois même pas, parce qu'il ne se pose même pas la question.
Oui, il fait quand même bien de le préciser, parce que si je me souviens bien, il est lui-même père de 3 enfants et donc forcément concerné en tant que tel.
Très bien, oui. Et justement, dans le doc, il dit notamment « Mes enfants consomment ou consommeront ». Moi, ça m'a fait bondir, c'est quand même pas une fatalité.
C'est pas une fatalité, mais c'est un grand risque. Si jamais ils consomment, il y a deux choix. Soit ils le font dans mon dos, soit ils me disent. Il y a de grandes chances qu'ils le fassent dans mon dos. S'ils le font dans mon dos, ils vont forcément rentrer en contact avec des gens qu'ils ne connaissent pas, que je ne connais pas, à qui ils vont échanger de l'argent et vont peut-être avoir accès à un produit nocif et même peut-être avoir accès à d'autres drogues. Donc voilà, je me pose la question.
Si vous disent papa, t'es mal placé.
Pourquoi je suis mal placé? Il y a 6 millions de personnes qui fument en France, quotidiennement. Ça concerne les avocats, les journalistes, les gens du cinéma, les caristes, l'administration, les policiers, tout le monde. Et la question, c'est est-ce qu'on continue à consommer ou est-ce qu'on réfléchit? Est-ce que cette consommation ne devrait pas être renseignée, informée et que cet argent ne devrait pas servir à autre chose qu'à alimenter des réseaux criminels?
Certes. Alors je vous raconte tout, je le fais remarquer que j'avais quand même des amis dont j'ignore ce qu'ils auraient été sans le cannabis, mais dont je vois ce qu'ils sont avec, c'est-à-dire des gentils zombies avachis. Il a immédiatement rebondi.
Non, mais c'est intéressant parce que si c'était légalisé, vous auriez, vous, accès à plus d'informations. Vous pourriez aller dans une pharmacie, demander comment ça fonctionne. La discussion est ouverte. Vous pourriez en parler avec vos amis. Ça vous intéresse pas. Mais vous pourriez même essayer. Si c'était illégal, vous pourriez vous faire votre propre avis. Vous pouvez pas dire à un enfant de 15 ans qu'il n'a pas le droit, que c'est pas bien. Vous devez lui expliquer pourquoi. Et le seul moyen de lui expliquer, c'est de décriminaliser le produit. Sinon, il va rester dans un univers sur lequel, en tant que parent, vous n'aurez aucun contrôle. Si on me permet de dire à mes enfants, voilà ce que c'est que le cannabis, parce qu'on peut en acheter là-bas et que j'ai des plaquettes qui informent sur ce que c'est, je peux l'expliquer à mes enfants et comprendre le danger.
Alors là, il pousse un peu quand même, parce que avec ou sans légalisation, n'importe qui peut rentrer dans une pharmacie pour se renseigner sur les effets du cannabis.
Je suis absolument d'accord avec vous, et ça m'a donné envie de le titiller et de lui redemander en conclusion. Alors, la légalisation pour ou contre, Mathieu Kassovitz?
Mon avis sur le sujet n'est pas important. Mon travail sur ce sujet-là, c'est d'informer. Et comme on est en France sur un sujet illégal, je n'ai pas le droit et je ne veux pas faire d'incitation en disant que ce serait mieux si c'était comme ça ou comme ça. Je suis curieux de voir comment nous, Français, on va le gérer. Quand je vais en Thaïlande, quand je vais au Québec, ou quand en Espagne et que je vois leur façon de gérer, ça me fait poser des questions sur la façon de le faire en France. Si on doit le faire, il n'y a pas juste un modèle, on légalise et puis c'est la fête. Il y a le modèle québécois, le modèle espagnol, le modèle hollandais, le modèle thaïlandais. C'est quatre modèles complètement différents. Donc si on doit avoir cette discussion, il faut qu'on ait aussi les clés et un plan de ce qui a été fait à l'étranger, comment ça fonctionne.
Voilà, donc à découvrir demain et sur France.tv. Et la télé, c'est aussi sa nouvelle drogue, hein, en plus.
Mathieu Kassovitz, dans un instant, on en parle justement. Vous savez que c'était légalisé en Allemagne aujourd'hui, 1er avril. Est-ce que vous voulez que ce soit la même chose en France ? À tout de suite.
RTL Midi.